Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, comme chaque mois, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Et notre émission de ce soir sera consacrée à la fête de Pourim que nous venons de célébrer. Pourim est une fête joyeuse et il n'y en a pas tant que cela pour que cela ne soit pas signifié. Et nous allons nous attarder ce soir sur une tradition particulière liée à cette fête. Il s'agit du Pourim Spiel. Et pour nous expliquer ce que signifie précisément ce terme, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce studio Bernard Weisbrot, professeur de yiddish au Centre Medem Arbeiterring et auteur d'une magnifique thèse sur Itzig Manger. J'ai sûrement oublié plein d'autres titres parce que vous avez une carrière très remplie. Bernard Weisbrot, bonsoir et vraiment merci.
Guten Abend, bonsoir, Erev Tov. Et bon, j'espère que Pourim se sera bien passé. On va parler, il y a beaucoup de rites qui concernent Pourim, mais le Pourim Spiel n'est pas une prescription rabbinique, mais c'est la frontière, disons, de Pourim avec le séculier.
Alors, avant que vous ne nous parliez exactement de Pourim et de cette tradition du Pourim Spiel, je vous propose qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, puisque comme vous le savez, la tradition dans cette émission est d'écouter régulièrement de la musique pour illustrer notre propos. On va entendre un très bref extrait donc d'un morceau qui nous met dans l'ambiance de cette fête. Il s'agit tout simplement d'un morceau intitulé Pourim Spiel. Pourim Spiel bien singulier que nous venons d'entendre. Il s'agit d'une version un peu savante, extrait d'ailleurs d'un disque qui s'intitule « Musique et chants juifs et chrétiens » avec notamment Aviva Timonier. Il s'agit d'une autoproduction, donc vous ne la trouverez pas dans le commerce, mais un bel air qui nous introduit donc à cette fête de Pourim. Alors Bernard Weisbrot, pourriez-vous donc nous rappeler en quelques phrases à quoi correspond donc cette fête qu'on appelle, je crois, également la fête des sorts ou la fête d'Esther, il me semble.
Oui, je situerai Pourim au printemps. Donc, Pourim, c'est chronologiquement une période de renouveau, mais ce n'est pas encore vraiment le printemps et la liberté comme Pessah. C'est un temps d'inversion, c'est-à-dire qu'on est sur des traditions populaires qui remontent à la nuit des temps, de changements, de surprises. Chez les Romains, vous avez le double visage de Janus. Chez les Juifs, c'est différent. Chez les Juifs, il s'agit de combattre l'idolâtrie, il s'agit de combattre le matérialisme et la Megillat Esther, l'écrit biblique qui concerne Pourim, raconte le remplacement d'un ministre antisémite, un premier ministre antisémite, un vizir Haman à la cour de Perse par un juif Mardoché qui est un descendant du roi Shaoul. Et ceci à l'aide d'un hasard extraordinaire, et bien qu'on ne voit pas dans le livre d'Esther une seule fois écrit un des noms de Dieu, il y a effectivement cette providence qui fait que le roi ne dort pas pendant une certaine nuit et il se fait lire le livre des chroniques et puis il se rappelle qu'il n'a pas récompensé Mardoché. Et quand Haman vient, eh bien, il lui demande qu'est-ce qu'on va faire pour honorer cette personne. Alors Haman croit que c'est lui. Évidemment, Haman, c'est un vaniteux, c'est un arriviste, un parvenu. Il pense qu'à l'argent, qu'au pouvoir. Il pense que c'est lui. Eh bien, toutes les belles choses, la couronne royale, le manteau royal, le cheval royal, les défilés dans la ville, en disant « voici ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer », eh bien, c'est Mardoché. Et puis Mardoché, le lendemain, est déjà Premier ministre. Haman a été pendu à la place de Mardoché. Et le complot antisémite a été déjoué. Et alors, cette providence qui est un petit peu présente, absente, elle donne lieu donc à un sauvetage du peuple juif, un sauvetage quasi miraculeux du peuple juif en Perse au 5e siècle, on suppose, hein, c'est l'écrit qui le dit, avant l'ère vulgaire. Dans cette Megillah, on a surtout l'idée que le peuple juif est diasporique et séparé des autres. Alors évidemment, pour les antisémites, c'est un défaut, et pour nous, c'est une qualité. Ensuite, on voit que tout le peuple est visé, riche ou pauvre. Donc, il y a un côté très démocratique. Tous les juifs sont solidaires, tous les juifs dépendent les uns des autres. Donc, il n'y a ni pauvres ni riches. Et on a donc une unité. Et ça se retrouve évidemment dans le rituel de Pourim où on doit envoyer des cadeaux des uns aux autres et également aider les pauvres à l'occasion de Pourim. Vous allez me dire, c'est la fin de l'hiver, c'est dur pour les pauvres. Et également, on a le Shabbat Zachor, le Shabbat dernier, qui précédait donc d'un jour Pourim. On a la lecture de la Parashat Amalek, à la fin de la Sidra qui Tetsé. On a trois versets que tout le monde, petits et grands, femmes et enfants, doivent entendre, et j'espère que vous l'avez entendu. Zachor et Asher Asah Amalek. Amalek, c'est le premier ennemi de la Torah, du monothéisme. C'est quelqu'un qui... Bon, c'est une triste histoire, Amalek, parce que c'est le descendant d'une certaine Timna que Abraham ne voulait pas prendre comme bru. Bref, je saute le Midrash. Et donc, on a cette... ce premier combat à la sortie d'Égypte, alors que les Hébreux, bon, bah, ils ont traversé la mer Rouge, c'est pas forcément des guerriers qui ont l'habitude de se battre, et donc ils se font attaquer par Amalek. Et Amalek, c'est celui qui voudrait contredire l'arrivée des Bnei Israël au Mont Sinaï. Donc Amalek, c'est par essence celui qui nie le judaïsme. Alors on voit évidemment, au cours des âges, on a eu beaucoup de circonstances qu'on a appelées des pourims, pourims de Tanger, pourims de Fès, de Meknès, Casablanca, Narbonne, à différentes époques. Et effectivement, le dernier pourim en date, c'était 1942, à Casablanca, on a considéré que le débarquement des Américains en Afrique du Nord, c'était un renversement de situation qui allait être comparable à celui du renversement de situation avec Aman et Esther à la cour du roi Assuérus.
En fait, vous nous dites que Pourim signifie en quelque sorte miracle, puisque comme vous le dites très bien, il y a pas le nom de Dieu n'est pas cité dans la Megillat Esther, dans ce rouleau, et c'est la providence, le sort, donc c'est un peu la... Non,
Monsieur le rabbin d'Alsace m'a fait remarquer que c'est Pourim et pas pour, parce que Aman il consulte le destin, le pour, il jette les dés, il se dit, il regarde l'astrologie, Moshe Rabbeinu est mort au mois de Hadar, bon ben très bien, c'est un mois néfaste pour les juifs, allons-y, mais il avait oublié que Moshe Rabbeinu, d'après la tradition, est né aussi un mois de Hadar, donc il se plante avec son astrologie, et le pour, c'est le sort, donc il compte le jour, le mois, etc., avec son jet de dés. Mais Pourim, c'est qu'il y a eu des sorts, il y a eu un destin contraire. Autrement dit, on ne doit pas être fataliste, et les gens qui se réclament d'Abraham, eh ben, ils doivent se dire, bon, on le dit assez souvent dans Bereshit, Abraham connaissait l'astrologie, mais il ne s'en est pas servi. Il a réussi à surmonter son destin. Et c'est ce que nous faisons toujours, que ce soit au lendemain de la Shoah, ou que ce soit pour faire vivre Israël, ou dans chaque communauté. On essaye de ne pas se laisser sombrer dans le fatalisme, et toujours essayer de forger son destin, essayer d'avoir un futur messianique qui sera conforme aux espérances de paix, d'harmonie, et abolir la violence sur la planète.
Alors, comme on l'a dit, bon, Pourim est une fête très symbolique, comme vous nous le dites, mais c'est aussi une fête très gaie. Il est de coutume, évidemment, de chanter, notamment après la lecture de la Megillah, des chansons qui puisent leur source dans des versets du livre d'Esther et des passages du Talmud, notamment Shoshana Tiakov, Mordechai Yatzar, enfin, il y en a beaucoup, mais il y a d'autres traditions qui sont toujours liées à cette gaieté. Par exemple, une tradition de la fête est liée à la consommation d'alcool durant le repas de Pourim, puisque les rabbins ont remarqué que le festin alcoolisé figurait de manière importante dans le livre d'Esther, et en ont parfois conclu que le miracle a eu lieu grâce au vin. Alors évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une campagne contre le
l'alcool. Consommer avec modération.
Ah, voilà, consommer avec modération.
S'il vous plaît.
Mais il est dit parfois qu'on doit boire du vin au point de ne plus pouvoir distinguer les formules rituelles « maudit soit Aman » de « béni soit Mardoché ». Alors c'est peut-être un peu excessif, mais voilà une incitation en tout cas à la gaieté, et cette veine un peu extravagante se poursuit donc dans la journée, le lendemain, puisque le Talmud évoque donc très tôt des jeux de Pourim, les fameux Pourim Spiel. Alors ça aurait une autre signification, on le verra dans le monde ashkénaze plus tard, à partir du XVIIIe siècle et même avant, mais il y a des jeux comme des sauts au-dessus du feu, on se déguise, le fameux carnaval, on redonne en quelque sorte le récit d'Esther en prenant vraiment corps dans le personnage, puisqu'on se vêt, on se déguise en Assuérus, Aman, etc., etc. Et certains voient donc dans ces coutumes l'origine de ces pièces jouées à Pourim, sur les bases desquelles le théâtre yiddish va donc se développer au XVIIIe siècle. Et donc dans le monde ashkénaze, la tradition ashkénaze, on appelle ces pièces de théâtre, ces jeux de théâtre, les Purim Spiel. Et vous nous le direz, c'est presque ce qu'on appelle un spectacle total, le Purim Spiel, il me semble.
Oui, c'est une réalisation très syncrétique et qui est le résultat d'une longue tradition séculaire. Parce qu'au début, les Purim Spiel, c'était des fête familiale. À partir du moment où vous deviez faire le michté, le fameux festin de Pourim, parce que le vin que vous avez cité, ce n'est jamais qu'un intermédiaire, et c'est un instrument divin qui permet aux choses de se renverser. Bon, avec cette histoire d'ivresse que vous avez évoquée, il y a effectivement le fait de lâcher ses marques, de repartir pour une nouvelle saison, et c'est à 6 mois d'intervalle, c'est comme un Rosh Hashanah, il faut refaire table rase et attaquer une nouvelle année. Et ben, je dirais, Pourim, c'est un petit peu pareil, il faut redémarrer. Et avant de devenir une forme élaborée de spectacle, le Purim Spiel a été puisé à trois sources. D'abord, pour amuser les convives au michté, au festin de l'après-midi de Pourim, les yeshiva bachour se faisaient un petit peu de pièces, un petit peu d'argent, en racontant tout ce qu'ils savaient en détail dans la Gemara, dans le Targum Sheni, dans des versions beaucoup plus midrashiques, beaucoup plus étoffées de la Megillat Esther que ce qu'on nous dit dans le canon, hein, dans la Megillat dans 11 chapitres. Et d'un autre côté, on va croiser ça avec des traditions de farce, de Mardi Gras qui se produit à peu près une semaine avant, deux semaines après, enfin ça dépend des années, hein, dans les pays d'Allemagne, Europe de l'Est. Et là, on introduit la farce et la musique qui sont venues compléter les beaux dires du Schreiber ou du Marshalik. Le Marshalik, c'est Monsieur Loyal, c'est celui qui présente les personnages. Donc, on va introduire, suivant les couches de la population, un élément très burlesque pour attirer du monde. D'ailleurs, je vais citer le même Shakespeare qui nous épate avec le monologue d'Hamlet, il n'hésite pas à mettre des scènes burlesques dans Macbeth, l'histoire du portier qui justement a bu beaucoup de vin et qui dit « Attendez, j'ai bu beaucoup de vin hier soir, attendez, j'arrive, j'ouvre la porte. » Donc, d'un autre côté, on a croisé ça, donc la première tradition religieuse, tradition musicale et de farce, on la croise avec une autre tradition, la comédia dell'arte, d'improvisation. Donc c'est pour Purim Spiel, ils ont laissé très peu de traces. Les premiers Purim Spiel, je veux dire Moyen-Âge, on n'a pas de traces parce que ça changeait d'année en année. Et les Purim Spiel qu'on a en version manuscrite ou imprimée, il faut déjà aller jusqu'au fin XVIIe siècle. Et là, on a des œuvres très complexes où il y a à la fois des restes de la farce avec des petits dialogues avec des injures entre Mardoché et Aman, des choses comme ça. Et puis, on dit même des grossièretés, c'est classique. Et on aura des versions beaucoup plus édulcorées. Voilà.
Alors, je sais que vous serez intarissable sur le sujet, il y a tellement de choses à dire, c'est vrai que même moi ça m'évoque si vous racontez ces espèces de scènes, un peu ce qui s'est passé du côté du culte chrétien, où on a commencé à faire des représentations, mais alors c'était pendant la Pâque chrétienne, justement,
la passion
mm-hmm. qui a donné naissance au théâtre, puis plus tard à l'opéra, enfin énormément de gens, et là on est... C'est un parallèle un peu osé, mais avec l'histoire de Pourim, c'est aussi quelque chose qui se met en scène et qui va donner naissance aussi au théâtre yiddish, aussi quelque part, on le verra, à la comédie musicale juive. On en aura un exemple. Et donc, il y a un parallèle que je voulais faire. Alors, je sais que vous connaissez tout ou presque sur le Pourim Spiel, parce que vous avez notamment, vous participez de manière très intense à la reconnaissance de ce genre, c'est un genre à la fois théâtral, liturgique, musical, enfin complet, reconnaissance au titre du patrimoine immatériel de l'UNESCO dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le collectif Purim Spiel.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette aventure et comment ça a commencé ?
Excusez-moi, je vais d'abord juste relever quelque chose. Le Purim Spiel cite la Megillah, mais n'est pas liturgique. Il est essentiellement parodique. Mais donc, l'aventure donc du collectif Purim Spiel, on a 5 associations, qu'elle me pardonne de ne pas les nommer toutes, bien sûr, le Centre Medem hein, où je travaille, qui a commencé à ça. On a également la Maison Lecture Yiddish, on a le Cercle Bernard Lazare, on a aussi le Cercle Juif Laïque. Bon. Notre but, c'est de faire reconnaître l'intérêt du Yiddish. Mais on n'inscrit pas de langue au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, On a dit le Purim Shibli c'est bien parce que ça ne ostracise pas les juifs religieux, ça n'ostracise pas, c'est pas quelque chose de spécialement profane, c'est rattaché sans être liturgique à la tradition et c'est typiquement juif, c'est yiddish, c'est la langue yiddish joue un rôle très important et ce n'est pas que une farce parce qu'on a vous allez parler d'Itikmanger, et bien Itikmanger, il nous a ressuscité cette tradition du Purim Spiel, il a repris les Langzeil du 18e siècle, et du 15e, du 14e siècle, c'est-à-dire ces deux grands vers allemands où il y a des rimes, bien sûr, mais il y a sept accents, il n'y a pas sept pieds, il y a quelque chose comme 15 ou 16 ou 17 pieds, mais il y a sept accents. Et Manger, il a fabriqué tout son... on appelle aujourd'hui le Midrash Itzik, avec cette petite strophe qui sont deux Langzeile d'une vingtaine de mots. Il en a fait quatre petites lignes avec quatre accents, trois accents, quatre accents, trois accents. Voilà. Et c'est ce qui a donné les Megillah et Lider, son cycle de poèmes sur Purim, qui donnera la pièce, l'opérette,
Die Megillah von Itzik Manger. On va en parler largement après. Voilà.
Alors, ce collectif, il est en train de créer un site. On a déjà été reconnu comme apportant le Purim Spiel comme quelque chose qui appartient au patrimoine culturel français, si vous voulez, au même titre que les terroirs, que les savoir-faire des vins de Bourgogne, Meursault et compagnie. Hein. Eh bien, on a en France le Purim Spiel comme la Chistera en Pays Basque. Eh bien, les Juifs qui vivent depuis, je ne sais pas... 10 bons siècles en France, après avoir été chassé et être revenu, le Purim Spiel fait partie maintenant du patrimoine culturel français. Et maintenant, nous nous attaquons, donc, on va jouer d'autres cartes, on va battre d'autres cartes. Il y a un film qui s'appelle le Purim Spiel, le scénario est d'Itikmanger, et on voit exactement dans ce film un Purim Spiel familial qui a été, voilà. Donc, rejoignez-nous. Pour le collectif Pour une pile, on a encore du pain sur la planche.
Donc tous ces renseignements, vous les trouverez bien sûr sur Internet ou sur le site du Centre Medem Arbat Ruin. Comme vous le savez, notre émission est quand même musicale, donc il nous faut régulièrement écouter de la musique. Alors je vous propose d'écouter dès à présent un enregistrement historique, puisqu'il s'agit d'un Purim Spiel qui provient d'un cylindre de la collection de Moïse Berikovski, qui était un éminent folkloriste et ethnomusicologue, qui a réalisé quand même plus de 2000 enregistrements de musique juive avant-guerre, donc sur des cylindres, d'où la qualité malheureusement très médiocre du son que nous allons entendre. Mais comme il s'agit d'un enregistrement historique, on va en entendre quand même quelques secondes. Un extrait d'un cylindre qui doit avoir pas loin de 100 ans quand même, puisque même si Moïse Berikovski a collecté avant-guerre, il avait aussi dans ses collections recueilli, catalogué toutes les collections, une partie des collections du baron Gunzburg collectée à Saint-Pétersbourg dans les années 1912-1914. Donc là, on a vraiment des enregistrements vraiment anciens. Alors, vous vouliez me dire quelque chose pendant qu'on écoutait ça, Bernard Weissbrot, donc je vous écoute.
Oui, alors pour une file ici, on a reconnu dans l'enregistrement précédent des vers de Mirliton, pas réguliers du tout, et puis avec des allusions grivoises. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que l'histoire d'Esther, on l'entend une fois le soir de Purim, une fois le lendemain matin ou le lendemain midi. Les gens ont voulu élargir le répertoire. Donc on a eu au cours des années d'autres pièces, d'autres thèmes bibliques qui se mettent facilement en scène. Et je voudrais citer Alors, le plus ancien, c'était une comédie allemande en 1577, et c'est à Brisk. En 1582, on l'a trouvé en allemand, et en 1577, à Brisk, on a eu quelque chose sur Jonas. Ensuite, on a eu, avant 1711, on a eu l'histoire de Joseph. Alors, les 12 frères, Jacob, Joseph, etc., Potiphar, la femme de Potiphar et compagnie, ça se met très bien en scène, ça. Ça a été très utilisé. Également, Akedat Yitzhak, alors ça, c'est le genre tragique, c'est pas tragicomique. Et ce qui a surtout fait il y a eu aussi David et Goliath en 1717. Et en 1750, une Moshe Rabbeinu Bashraibung, aussi assez austère. D'ailleurs, le Purim Spiel n'est pas que comique. Il y a des moments tragiques. D'ailleurs, toute la Megillat Esther, c'est un suspense incroyable. Et bon, c'est seulement vers la fin que ça se dénoue. Et donc, le Arachver Spiel, je ne peux pas ne pas citer l'ouvrage monumental du professeur Shmerouk, René Shmerouk, à la Vachalom, de l'Université hébraïque de Jérusalem, que j'ai rencontré dans les années 70-80. Il a fait un énorme bouquin sur les Machazon Mikraïm Beïdish, sur toutes ces pièces à thème biblique. Et il a comparé quatre versions successives du Arachver Spiel. 1697 Leipzig, manuscrit, 1708 imprimé à Köln am Spree, c'est-à-dire à Berlin, 1718 Das Spiel von Mordechai und Esther, Amsterdam, et encore en 1718 une autre version du même, Arachver Spiel, Gleich einer Opera, imprimerie d'Amsterdam. Et en 1720, à Prague, à nouveau Acta Esther mit Arachver Spiel. Et il les a comparées, toutes ces versions, et il dit quel vers de quelle version colle avec quel vers de la version ultérieure qui a été remaniée, relookée, etc., comme on dit aujourd'hui. Et on a évidemment encore Acta Esther, deuxième impression, à Prague en 1763, et 1774, encore Acta à Amsterdam.
Vous voulez dire que c'est une littérature qui a circulé, en fait, qui était connue
à travers l'Europe centrale et orientale. Peut-être que
Et quelle différence alors entre Arachver Spiel et Purim Spiel? Parce que là, ce qu'on a entendu précédemment, c'était Arachver Spiel, et on a aussi dans ces enregistrements très anciens des Purim Spiel. Alors, est-ce qu'il y a une différence?
Arachver Spiel, vous avez une version en quelque sorte définitive. Même si on vient de voir qu'il y a eu 5 ou 6 versions différentes, c'est déjà une œuvre imprimée, comme vous diriez Phèdre, les plaideurs, je ne sais pas, ou la flûte enchantée. Je pense beaucoup à la flûte enchantée parce que vous avez d'un côté la franc-maçonnerie, d'un autre côté vous avez la langue allemande qui est bien de chez Mozart, mais vous avez le style de l'opéra italien. Donc le Purim Spiel, c'est
plus un terme générique en fait.
Oui, et le Purim Spiel, on le change à chaque année avec, vous savez, comme les chansonniers, caveau de la République, des trucs comme ça. Bon, eh ben, comme nos comiques là, même s'ils se passent à la télé, suivant l'actualité, suivant telle ou telle personne ou les guignols de l'info. Oui, c'était un petit peu ça. Donc on se moquait de ce qui se passait dans l'actualité. Bon, et chaque Purim Spiel, eh ben, il y avait un clin d'œil à Achashverosh, bon, le pouvoir, etc.
Alors c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, c'est cette réactualisation permanente en fait du Purim Spiel, c'est-à-dire que comme vous le dites très bien, on s'adapte à l'actualité et ça permet de faire une satire un petit peu des temps modernes en fait, des temps qu'on vit en quelque sorte, voilà, à travers le Purim Spiel.
Menger dans ses Megillah, il a relooké ça tout à fait, il a dit c'est pas possible que dans la tradition biblique il y ait que des rois et des reines. David c'était un berger, et ben moi je vais mettre un Schneider. Et la reine Esther, il lui a collé un amoureux. Et cet amoureux, il veut tuer le roi Assuérus parce qu'il trouve indigne que le roi Assuérus dorme avec sa petite Esther.
Alors, avant d'entendre justement la Megillah d'Itzik Menger, je vous propose d'écouter encore un extrait assez historique. Il s'agit d'une Purim scène qui était enregistrée donc en 1910 à Berlin par monsieur et madame Gutmann, et c'était hérédité de chez Frémont et Associés. Wieder mal Melach Arschweiach des Sommer.
Ach, so fad, ich gefuhre, fadieres, ach, hol dir zu ein Omein.
Omein, in die Bären kecke.
Sei es mir, wo sind du ist, das Arme, ich bin ein Mensch, wo es an, wo nicht auf einer Beginne. Ich gedenke, vielleicht da ein Kimmel, denn der Heim ist doch zu leid mit einer Beginne. Ist die Gewänder so lang, ganz so breit, dass du mal sie ich immer nach Weg gesehen.
Ja, vergesst nicht in der Heimat, der ich doch mal heil gewinn mit Mami Gille, pflegt sie doch mehr mal heil zusammen mit dem Bier im Keule. Du gehst alles davor, ja, wo sie lasst doch sie in der Tag Gebär essen.
Nu essen, das heißt essen, ich bin am Ende, dass sie mal singen im Schoisanes Jankoi.
Hat alle Sahne singen im Schoisanes Jankoi. Musik. shang of Yakoi, the hollow of the Mayako, the ice of Yaka, the highland Mordecai. The shang of Yakoi, the hollow of the Mayako, the ice of Yaka, the highland Mordecai. Open in the vault, all the eating, bring it, air to the vault, all the bringing, is a big human at the door, the light of all the apple.
Un extrait donc de cette scène de Pourim qui nous vient donc du disque Yiddish New York Paris Varsovie 1910-1914 paru chez Frémont et Associés. Alors vous me disiez hors micro, Bernard Weisbrot, que c'est un drôle de mélange quand même.
Oui, c'est-à-dire que le 78 tours avec ses 4 minutes d'un côté et 4 minutes de l'autre, il avait pour but de recréer des moments de la vie juive. Et là, on veut recréer Pourim. Alors il y a un petit bout en hébreu au début, un petit bout de la Megillah qui démarre. Ensuite, il y a un couple comme ça qui dit, qui se font des compliments réciproquement. Toi, tu vas chanter Shoshanat Yaakov. Toi, tu vas me faire une bonne challah de Pourim, le koilech comme on l'appelle. Hein. C'est une énorme challah comme ça de 70 cm de long. Voilà. Et après, on reprend Shoshanat Yaakov. Autrement dit, on crée une atmosphère. Hein. C'est on a toute une série comme ça avec Mordechai Hirschman, le Columbia, là, des disques américains pour des gens qui s'éloignent de la synagogue, mais qui veulent rappen. Rapidement à Yiddish Untam grâce à la technique moderne des années 20. Hein. Et donc, on met un petit prologue en Yiddish, le juif vient à la synagogue, il se recueille, il chante son El Malgar Hamim, et puis bon, alors là, il y a un morceau de Razanout. Et voilà, donc c'est la fête de Pourim en très raccourci, en 4 minutes, évoqué avec ses airs les plus fameux.
Ben écoutez, très bien. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Itzig Manger. Il faut dire que le Pourim Spiel a été une source d'inspiration pour plusieurs écrivains, en fait, qui vont donc adapter l'histoire d'Esther et de la persécution des Juifs, comme on l'a dit, aux revendications sociales, religieuses ou sionistes de leur temps. Et donc, c'est ainsi qu'en 1936, Itzig Manger publie ses Megillé Lieder, ses chants sur le rouleau d'Esther, à Varsovie. Et vous avez fait, en fait, une adaptation, vous avez réalisé une adaptation française de ce Pourim Spiel en 2015, si je ne me trompe pas.
Oui, mais je ne suis pas le premier. Mais pour le français, je suis le premier.
Alors, dites-nous un peu ce que vous avez fait.
Manger, avec ses Megillé Lieder, ses Chumash Lieder, c'était une véritable bombe. Parce que ça faisait très longtemps qu'on ne réintroduisait pas la thématique biblique dans la littérature yiddish. Et bon, je ne vais pas faire l'historique de l'aventure de cette thématique qui a été reprise pendant la Shoah, par exemple, pour les thèmes de catastrophes comme Iov et Ézéchiel, la résurrection des morts. Bon. Le but de Manger, c'était d'amuser. Et il voyait que, après la Première Guerre mondiale, Dieu était mort. Donc il s'est dit, je veux faire la littérature yiddish, mais typique, il s'est adressé à la littérature yiddish ancienne, 16e, 17e siècle, et il s'est beaucoup intéressé, sur les conseils de son frère Note Manger, au Schmuelbuch, c'est-à-dire aux versions de la Renaissance des livres bibliques. Et il a repris, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux lines, sa petite strophe à Kathleen, dont la deuxième et la quatrième rime, et il a créé des scénettes. Son cycle poétique, c'était vraiment des scénettes. Et pour les Chumash Lieder, c'est pareil. Et il allait faire la même chose en 1948 avec le livre de Samuel, l'histoire de David, Shaoul, mais de manière beaucoup moins suivie. Le miracle, c'est que c'est tellement suivi, ce petit cycle de 30 poèmes qu'il appelait les Megillé Lieder, qu'en 1965, Shmuel Bounim, un homme de théâtre israélien, il a loué une salle à Yafo, ce qui s'appelait le Hammam, et il a monté avec Peyserke Burstein, son fils Mike Burstein, sa femme, et puis deux ou trois acteurs, un Pourim Spiel où avec quatre acteurs, vous arrivez à faire huit personnages. Bon, parce que on peut faire de sorte que Mordechai ne parle jamais à Haman, contrairement à ce que fait Akhtar Hachverosh. Et donc, on a eu un beau spectacle, on a eu un Columbia vinyle, on a eu la tournée des Burstein à travers le monde entier. On a eu ensuite des CD qui ont repiqué le vinyle. Mais en 1998, à Dresde, on a le Rock Dresden Theater qui a remonté cette pièce en 1998 et qui a sorti le livret. Mmh. et a sorti 18 chants avec tout le livret en phonétique et en yiddish. Entre-temps, à Strasbourg, Raphaël Goldwasser, le Louvre-Theater, en 1992, il était allé à un endroit qui s'appelle la choucrouterie, rassurez-vous, on n'a pas mangé de choucroute là-bas, il a monté la Megillah entière en yiddish avec des petits intermèdes français et avec un petit livret traduit en français. Mais ce livret a été fait à la va-vite, je l'ai critiqué, parce que à Paris 8, j'ai enseigné une bonne vingtaine d'années le yiddish au département d'Hébreu, et comme il y avait des hébraïsans qui voulaient prendre yiddish, mais à qui il fallait que je donne du travail, et qui ne possédaient pas suffisamment le yiddish pour lire les textes en original, j'avais traduit dans les années 78-79 ces chants-là, en version polie. Et là, comme on voulait rééditer au Centre Medem pour soutenir la candidature du Purim Spiel au patrimoine immatériel de l'humanité, eh ben, il fallait quelque chose de propre. Donc j'ai remanié complètement mes strophes. Il ne s'agissait pas que pour les étudiants, leur faciliter à la compréhension et faire la littérature comparée, Megillat Esther et puis Megillat Menger, d'accord ? Eh bien, j'ai remanié tout ça, j'ai fait que ça rime mieux, qu'il y ait des accents. Et là, beaucoup de ces poèmes, pas tous, c'est pas possible, mais sont chantables. C'est-à-dire que quand Menger met des vers entre, je vous ai dit que c'était pas régulier, entre 7 et 9 pieds, moi j'en mets 10 carrément, et à ce moment-là, avec le jeu des interversions de lignes et puis déplacer les adjectifs, déplacer le syntagme nominal et puis l'attribut, et puis, etc., on arrive à respecter la versification tout en sauvant le sens de très près. Donc c'était passionnant, et le Centre Medem a sorti ceci avec les aquarelles de Shmuel Bounim, parce que le metteur en scène, il a fait des tas d'aquarelles, il est très bon dessinateur, et la première version donc de ce Megillah Itzik avec à droite le texte yiddish, à gauche la phonétique allemande. Mais il fallait tout refaire. La phonétique allemande, SCH, non, on veut pas SCH, on veut du SH, Ivo, vous comprenez ? Pour les Allemands, J, OIB, OJB, mais nous, on préfère la phonétique OYB.
Je vois que vous êtes intarissable sur le sujet, mais il faut qu'on écoute absolument un morceau de cette Megillah d'Esther. On va écouter même toute l'ouverture. Je vais essayer de le dire en yiddish, j'ai presque honte devant vous, Das Lied von Läufer, voilà. Donc extrait de cette Megillah d'Itzik Menger.
Im wenig.
Es da mal geht die Grine und was stehen der Krenoline?
Mordche der Kuchematik.
En homen der Rösche der Latik.
Seir ist die Mach Schäfe und Schelle die am Geht.
Bei Susi der Redakter wo es hakt der Tscheinig hakt.
Un bref extrait de cette Megillah d'Itzik Menger, de version historique par la famille Bernstein, donc de 1965. On va donc avancer et on va parler d'un autre chanteur et un autre compositeur, pardon, qui a donc composé aussi alors des Purim Lied. La différence est des fois pas toujours évidente. Il s'agit de Michael Gelbart, donc Michael Gelbart est né en 1889, mort en 1962, qui est né près de Lodz, donc en Pologne, et il a très tôt, entre 1909 et 1911, effectué des tournées avec son groupe de théâtre. théâtre. Il écrivait la musique pour le théâtre. Il émigre aux États-Unis en 1912, s'installe à New York. Et là, il travaille aussi dans l'art bettering local de New York. Il enseigne la musique aux enfants, dans les camps d'été également. Il a écrit plus de 120 chansons yiddish pour les enfants. Et on va entendre donc une courte chanson qui s'intitule « Purim Lied », interprétée par Masha Benya.
Und als der Frühling kommt an, bringt uns a fröhlichen Jontev, Purim.
Très brève chanson pour Purim Lied, donc du compositeur Michael Gelbart, interprété par Masha Benya.
C'est très amusant parce que il y a Urim, Burim, Gurim, Durim, c'est un petit peu comme Nes Gadol Ayasham, on veut apprendre l'alphabet aux petits-enfants, alors on fait apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on fait une variation sur le nom,
sur le nom
Purim,
de Purim.
Avec, voilà, c'est une chanson enfantine. Le disque est publié par Arbettering, effectivement, et Michael Gelbart a édité plusieurs, c'est un excellent, conservateur de chansons yiddish. Il n'y a pas que ses chansons originales, il y a beaucoup de chansons qu'il a bien remises en musique et tout et tout.
Alors, il y a de nombreux chanteurs ou compositeurs qui ont contribué à perpétuer cette tradition des chansons yiddish liées à la fête de Purim. Parmi eux, on a donc ce chanteur américain d'origine autrichienne, Theodor Bickel, bien sûr, que tout le monde connaît. On a également la chanteuse française d'origine russe, Sarah Gorby. Et avant d'entendre donc deux chansons de Theodor Bickel et de Sarah Gorby, qui parlent tous les deux des Omentaschen, qui sont en fait des pâtisseries typiques de la fête de Purim. En français, on traduit ça par les oreilles d'Aman, je crois. Alors, je voulais savoir, Bernard Weisbrot, un petit peu quelques mots sur cette tradition des Omentaschen, des oreilles d'Aman. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs des traditions. C'est-à-dire que Mon, c'est le pavot, et Homen, ça ressemble à Mon. Donc, ce sont des pâtisseries fourrées, comme on fait en Europe de l'Est ou en Europe centrale. Mais chez les non-juifs, c'était fourré soit avec des pruneaux, soit avec de la viande, soit avec autre chose. Mais le monde, alors qu'est-ce qui symbolise ? Eh bien, tous ces petits grains de monde, c'est soit pour rappeler... Alors là, les religieux trouvent toujours d'autres explications. C'est comme le sapin de Noël, il n'avait rien à voir avec Noël, a priori, la Havdil. C'est tout, cette multitude de petits grains de pavot, c'est la fortune de Haman. Et pourquoi, alors... les poches de Haman, c'est les poches de Haman. Alors, pourquoi est-ce que c'est les oreilles d'Haman ? Alors, j'ai été consulter une encyclopédie Sefer HaMoadim de Yom Tov Levinsky, qui a paru en 1955, c'est tout en hébreu, mais il y a tout sur toutes les fêtes, il y a 6 énormes volumes. Et là, ce qu'il nous explique, c'est que les oreilles d'Haman, il faut lire le Midrash Haggadah, et on disait que Haman, il était honteux. Et il y a une expression qui dit... avoir les oreilles basses. Donc, Osnav, m'écoute à faute. C'est-à-dire, m'écoute à faute, c'est-à-dire soit les oreilles découpées, soit les oreilles tombantes. Pourquoi Haman aurait-il les oreilles tombantes ? Je vous ai rappelé tout à l'heure l'épisode avec le cheval, où c'est Mardoché qui est sur le cheval, et puis c'est Haman qui est à pied. Bon, les Midrashim et puis les bonnes légendes populaires disent qu'on lui balance sur la tête de Haman, puisqu'on croyait que celui qui était à pied, c'était Mardoché, et pas le contraire. Donc, la Megillah dit... Haman rentre chez lui, Evel attristé, Vechafouy Roche et la tête enveloppée. Alors bon, les farces disent que c'est le pot de chambre de la fille de Haman qui lui est tombée sur la tête, mais là, on a une image du Midrash Haggadah qui dit les oreilles lui tombaient. On a également autre chose, tirer les oreilles, c'est se venger sur quelqu'un. Et de toute façon, Haman, quand il a conduit le cheval, il a dû se faire moquer, il a dû se faire houspiller par la populace. Donc, on a cette idée des oreilles bouchées, qu'il en avait plein les oreilles. Bon, le Grager, j'en passe, est des meilleurs. Et le folkloriste, là, il nous dit que les chrétiens ont repris cette coutume de taper sur Haman. Vous savez, il y avait tous les Grager, Roman Clapper. Et pareil, ils ont inventé les oreilles de Judas. le Judas Ish. Kyriot, l'habitant de la ville de Kyriot, que l'évangile appelle Iscariot. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire la publicité à l'évangile, mais Ish, Kyriot, c'est deux mots, et Judas Iscariot, c'est comme si la ville c'était Iscari. Mais non! C'est pour vous dire que les folklores se mélangent et s'embrouillent. Et moi, je ne pourrais pas vous dire, en l'absence de documents, qu'est-ce qui est d'abord les oreilles d'Aman ou les poches de pavot.
Alors, si vous êtes régalé pendant la fête de Purim, c'est formidable. On va se régaler en écoutant donc deux chansons, des extraits toujours parce que le temps presse. Donc, Omentaschen par Theodor Bickel et tout de suite après un Purim Lied de Sarah Gorby.
Ях не двоше фортин штот, Халт зих ин айн пакн. Зи дарф ойф пурим койфн мел, Омен ташн бакн. Хоп, майне омен ташн, хоп, майне вайсе, Хоп, мит майне омен ташн, от пасир та майсе. Хоп, майне омен ташн, хоп, майне вайсе, Хоп, мит майне омен ташн, от пасир та майсе. Geht der Regen, es geht der Schnee, es kappet von die Dächer. Jach ne fiert schön die Kornmehl in a Sack mit Lecher. Hopp meine Omentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meine Omentaschen, hopp passiert am Eise. Hopp meine Omentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meine Omentaschen, hopp passiert am Eise.
Extraits de chansons, Theodor Bickel et Sarah Gorby, qui en fait, c'est un, vous me disiez hors micro que c'est la même chanson.
Absolument, les mêmes paroles, les mêmes paroles.
Et voilà, mais dans deux versions évidemment différentes. Continuons sur cette histoire d'Esther et élargissons un peu le sujet, puisque l'histoire d'Esther a nourri également l'œuvre d'écrivains non-juifs. Je pense notamment évidemment à la fameuse pièce de théâtre Esther de Racine, mais a également été une source d'inspiration pour des compositeurs, de Jean-Baptiste Moreau à Handel, en passant par Lidarty, Darius Milhaud, Hugo Vasgal, etc., etc. Alors je vous propose d'écouter un extrait donc, de l'air d'Esther, dans l'oratorio du même nom, donc, qui a été composé en 1774 pour la communauté d'Amsterdam par donc, Lidarty, un compositeur d'origine italienne, sur un livret donc, d'un rabbin vénitien qui s'appelait Rabbin Jacob Raphaël Saraval. C'est une pièce qui dure 2 heures. Alors évidemment, on n'aura pas le temps dans 2 heures. Je vois qu'on fait des signes pour aller vite. Donc on écoute cette air d'Esther qui se rapproche, vous le verrez, un petit peu de l'air de la Reine de la Nuit dans la Flûte enchantée de Mozart dont on parlait au début de l'émission.
Oh,
un extrait donc de l'oratorio d'Esther avec l'air d'Esther de Lidarty. Alors, autre œuvre, autre nom donc qu'on a cité, c'est le compositeur Darius Milhaud, d'origine donc juive contadine, qui écrit entre 1925 et 1927 un opéra bouffe en deux actes qui s'appelle Esther de Carpentras. Et d'après une pièce de théâtre d'Armand Lunel. Cette pièce sera créée le 3 février 1938 à l'Opéra Comique de Paris. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le texte, dans son texte, Armand Lunel s'est inspiré d'une version provençale de l'histoire de la reine Esther. Donc c'est une sorte de Purimspiel, en fait, écrit avant la Révolution française par les rabbins Mardoché Astruc et Jacob de Lunel. Et en quelques mots, l'histoire est encore une fois actualisée, puisqu'elle raconte que les démêlés de la communauté juive de Carpentras, avec donc le pouvoir clérical, incarné par un évêque, à qui on demande si on peut, les juifs demandent s'ils peuvent jouer cette histoire de Pourim. Il se fait un peu prier, il consent donc à ce que soit jouée cette histoire de Pourim dans les rues de Carpentras, mais son valet le convainc d'en profiter pour convertir les juifs qui sont ainsi rassemblés. Et le cardinal, qui est assez démoniaque, en fait, exige de tenir le rôle d'Assuérus. Si bien que lorsque Esther demande à Assuérus, qui est en fait le cardinal, d'épargner les juifs, le cardinal la menace d'expulser les juifs, et Esther comprend que c'est plus un jeu mais que c'est la vie réelle, et elle arrive encore une fois par l'émotion à toucher le cardinal, qui va finalement accepter que les juifs continuent à pratiquer leur foi ancestrale. On écoute donc un bref extrait de cette Esther Carpentras de Darius Milhaud. Un extrait bref donc du Esther de Carpentras de Darius Milhaud, très difficile à trouver parce que c'était très très peu enregistré et très peu enregistré, et là il s'agit d'une captation radiophonique d'après-guerre. Ce qui est terrible, c'est que ça a été joué en 1938 et que c'était juste avant la Shoah, donc c'est-à-dire que ce qui a attendu les Juifs de Carpentras, c'était l'extermination et non pas simplement l'expulsion. Bernard Weisbrot, le temps passe vite en votre compagnie, on aurait aimé continuer, il faudra prévoir trois émissions.
Si Dieu veut, les années suivantes, si on est toujours là, ce que j'espère.
Eh bien, écoutez, merci vraiment, vraiment d'être venu pour tout ce que vous avez apporté. Vous pouvez en savoir plus donc au centre Medem Arbeiterring, où Bernard Weisbrot est là ou presque en permanence. Je voudrais aussi également remercier donc tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous suivent régulièrement. Je vous rappelle que si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que les précédentes, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je rappelle l'adresse www.iemj.org, ainsi bien sûr que sur judaicfm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Roten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
The sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.